Bretagne 5. Écoutez la Bretagne. Bretagne 5 matin. Stéphane Hamon.
Et ce matin, en ce lundi matin, nous recevons Alexis Bouchard. Il est membre du Bureau national des jeunes socialistes, animateur fédéral des jeunes socialistes d'Ille-et-Vilaine. Il est venu jusqu'à nous pour être en direct au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour Stéphane Hamon et merci Bretagne 5 de m'accueillir.
Alors on vous accueille parce qu'il s'est tenu, ça ne nous aura pas échappé aux uns aux autres, ainsi qu'à nos auditrices, à nos auditeurs, que s'est tenu à Marseille le 80e congrès du Parti Socialiste, un congrès auquel vous avez participé et qui n'était pas comme les autres, on peut le dire comme ça.
Effectivement, après c'est l'habitude de tous les congrès du Parti Socialiste, mais enfin, les journalistes s'attendaient à ce que l'on mette le dernier clou sur le cercueil du Point de la Rose. Ça n'a pas été le cas, ils ont été déçus une fois de plus, et on s'en excuse sur le ton de la blague. Enfin, voilà, c'était un congrès qui s'annonçait très compliqué, hein. On avait un spectacle affligeant qui était donné de part et d'autre des textes d'orientation depuis les 10 jours qui ont précédé le congrès. Ça s'annonçait très tendu, très difficile, hein. On voyait mal comment les uns et les autres au sein du parti pouvaient aspirer à s'entendre, à trouver des terrains d'apaisement et d'unité. Et pour autant, la responsabilité a pris le pas sur nos comportements. Et nous sommes parvenus effectivement à un accord qui a été adopté à l'unanimité par chacun et chacune des congressistes et des délégués au congrès à Marseille. On s'en félicite parce que, bien que nous soyons divisés, nous avons cet esprit de responsabilité à l'heure où les Françaises et les Français nous regardent, ou à l'heure où les partenaires de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale aussi nous regardent et attendent de nous des réponses, une certaine forme d'unité, une certaine forme de crédibilité pour retourner au travail et retourner sur le terrain. Ça a été le cas et nous en sommes plutôt fiers. C'est toute la fierté des socialistes et c'est un petit peu... pour reprendre l'expression de Benoît Payan qui nous a fait l'honneur de sa présence à Marseille, c'est le miracle marseillais. Et nous, on l'a vu, c'est un peu un exemple dont on doit s'inspirer, hein, avec tout son travail lors des élections municipales de 2020 à Marseille. Le printemps marseillais, c'est une victoire collective de la gauche qui doit nous inspirer et ça a inspiré en tout cas les socialistes dans leur congrès. Donc on s'en félicite.
Alors congrès tendu, congrès qui finalement aboutit à quelque chose de positif. Effectivement, les commentateurs, nous autres même, journalistes, on se disait c'est la fin du PS, c'est la fin... d'une histoire, en tout cas politique.
Alors, il y a eu effectivement un accord. Moi, je ne vais pas dire que je suis d'accord sur tous les points de ce texte. Mais enfin, il fallait trouver un terrain d'unité. Moi, je suis soutien d'Olivier Faure, premier secrétaire sortant et d'ailleurs réélu à l'issue du congrès de Marseille. Nous avons fait notre texte d'orientation, 51% des voix militantes. Bien que ce soit une majorité absolue incontestable, c'est une majorité qui n'est pas quand même écrasante. Quand on voit des fois dans des congrès, dernièrement le congrès du Parti communiste, la motion de Fabien Roussel fait, je crois, près de 80 ou 85%. Mais enfin, voilà,
On devrait dire qu'il y a une forme de tradition.
Voilà, c'est peut-être cette tradition au Parti communiste. Mais enfin, on était habitué effectivement à des majorités beaucoup plus stables, disons, au Parti socialiste. Et c'était toute la responsabilité d'Olivier Faure, arrivé en tête, bien qu'il soit majoritaire, de trouver une certaine forme de consensus, de façon à ce que chacun s'y retrouve et surtout de façon à ce qu'on n'ait pas des discours incohérents les uns et les autres dans la presse et que les Françaises et les Français y voient clair dans ce que l'on propose. C'est pourquoi le texte d'orientation numéro 1, porté par Hélène Geoffroy, se voit attribuer la présidence du Conseil national, le Parlement du parti, et va donc mener les débats en interne quand il va s'agir des universités d'été à Blois, des congrès futurs et des conseils nationaux, je viens de le dire, et Nicolas Mayer-Rossignol, le premier signataire du texte d'orientation numéro 3, refondation, qui lui a fait 30% à l'issue du vote du 12 janvier dernier, s'est vu attribuer un poste, disons, relativement honorifique, puisqu'il se voit attribuer la fonction de premier secrétaire national délégué, tout comme Johanna Roland, maire de Nantes, aux côtés d'Olivier Faure. Et l'accord stipule, noir sur blanc, que ce premier secrétaire et les deux premiers secrétaires délégués, excusez-moi, parce qu'il ne faut pas faire de consensus, on n'est pas dans une forme de collégialité, se réunissent une fois par semaine pour... dicter les éléments de langage, dicter la ligne, l'orientation stratégique du moment, de l'actualité, de façon à ce qu'on ne broue pas les pistes et que le discours soit clair auprès des Françaises et des Français. Donc c'était très important. Chacun est associé, disons, de près ou de loin aux prises de décision, mais en tout cas, tout le monde est au fait, est au des informations et de ce qui se passe au sein du parti. Donc on peut s'en réjouir à voir si l'unité sera perpétuée, mais en tout cas, sur le fond, le texte d'orientation porté par Olivier Faure, qui prône comme programme la rupture avec l'ordre établi et comme stratégie l'union de la gauche et des écologistes pour gagner, elle est majoritaire et évidemment sera défendue par nous-mêmes, que ce soit dans les instances nationales du parti, mais aussi dans les fédérations, dans les départements. Il faudra faire comprendre à chacune et à chacun que le vote militant doit être respecté. Nous sommes majoritaires. Nous sommes plébiscités de par cette stratégie. Il va falloir continuer sur ce chemin, bien que on associe aux uns et aux autres chacun des textes d'orientation la prise de décision et la prise d'information. Nous avons gagné et nous allons nous tenir à nos engagements.
L'apaisement, on l'entend dans vos propos. Cet apaisement, il a été dur à trouver. Il est peut-être pas encore tout à fait trouvé, parce qu'on le voit sur les réseaux sociaux, qui sont une espèce de caisse de résonance. Alors, on ne prendra pas tout pour argent comptant, mais ça a été quand même très violent.
Ça a été violent, mais c'est l'époque qui fait ça, c'est le Parti Socialiste qui aime ça aussi quelque part, mais enfin, il y a eu cet esprit de responsabilité quand même qui est arrivé assez vite à Marseille. On est arrivé le vendredi, c'était très tendu, on croyait que c'était impossible de trouver un accord entre les uns et les autres, et pour autant, le samedi après-midi, on s'est dit, bon, la fin du congrès approche, il va peut-être falloir qu'on arrête de se regarder le nombril et qu'on aille au devant des journalistes pour leur dire ça y est, on a un accord, on est prêt à retourner au combat. À l'heure où la réforme des retraites, en tout cas les mobilisations contre la réforme des retraites battent son plein dans la rue partout en France, il va falloir qu'on arrête de se regarder nous et qu'on aille au devant, se mobiliser auprès de nos partenaires, auprès des forces syndicales pour faire porter nos propositions, défendre nos amendements, que ce soit à l'Assemblée, et surtout nous faire entendre dans la rue. Donc il y a eu cet esprit de responsabilité qui est venu, et c'est tant mieux, parce qu'il fallait absolument retrouver cet apaisement, cette unité, cette fierté d'être socialiste, bien qu'on soit pas toujours d'accord les uns et les autres.
Voilà, c'est le fameux jeu des courants, ils sont nombreux au Parti Socialiste. Est-ce que c'est aussi tourner la page de François Mitterrand, parce que c'est la référence aujourd'hui, ou au contraire, est-ce que c'est conserver l'héritage, cette union de la gauche, puisqu'on est en pleine union de la gauche, le Parti Socialiste fait partie de la NUPES aujourd'hui. Est-ce que c'est nécessaire pour que la gauche se fasse entendre? On a vu que, là aujourd'hui, on est à la veille d'un nouveau mouvement social. Demain, mardi, les Françaises et les Français vont battre le pavé à nouveau contre la réforme des retraites. Est-ce que c'était important que le Parti Socialiste garde cet héritage d'union de la gauche pour peser dans le débat politique?
Bien sûr, parce que croire que le Parti Socialiste n'a gagné que des élections seules, c'est une absurdité. Et c'est tout le discours d'Olivier Faure qu'il a tenu au Congrès de Marseille lors de son discours de clôture, c'est-à-dire que toute la stratégie de François Mitterrand a reposé sur l'union de toutes les forces de gauche possibles pour parvenir au pouvoir. Et c'est comme ça qu'il est arrivé au pouvoir. Et je veux dire, même François Hollande en 2012, on oublie souvent de le dire, mais c'était un accord de gouvernement qui était signé avec Europe Écologie Les Verts et le Parti Radical de gauche. Donc on n'a pas... faut arrêter avec cette... disons, c'est pas cette folie, mais cette prétention de dire qu'on gagne les élections tout seul. Ce n'est pas vrai. Et donc, à défaut que, François Mitterrand, il est dans le cœur de beaucoup de socialistes, mais ça appartient au passé. Mais pour autant, sa stratégie et son héritage sont tout de même palpables encore en 2023 au sein de notre organisation politique. Et c'est ce sur quoi nous, on veut continuer à travailler, parce que sans l'union de la gauche, le Parti Socialiste n'a pas moyen de faire avancer ses propositions, ses valeurs dans les programmes d'union de la gauche pour changer la vie des Françaises et des Français. Parce que si on s'engage, c'est qu'on croit... on croit qu'on a raison, on n'a pas toujours raison, mais c'est parce qu'on croit que on va changer, on va améliorer le quotidien de nos concitoyens.
Alors le quotidien des concitoyens aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'inflation. C'est depuis le 1er février l'augmentation du prix d'électricité, par exemple. C'est des difficultés économiques aussi. Et c'est ce contexte social, ce refus de cette réforme des retraites qui ne passe pas, l'augmentation de l'âge de la retraite, du départ à la retraite à 64 ans ne passe pas. Je le disais il y a quelques secondes, demain, nouveau rassemblement dans les rues partout en France. Rassemblement important le 19 janvier, le 31 janvier. Est-ce que la gauche a un rôle? Alors quand je dis la gauche, là je sors un petit peu du cadre du Parti socialiste, peut peser plus sur les décisions futures, peut-être de retrait de la loi?
Bien sûr, et c'est tout l'engagement de tous les partis d'opposition, d'ailleurs, que ce soit de droite comme de gauche, au Parlement. C'est-à-dire que nous sommes fortement mobilisés dans la rue pour dire que nous sommes opposés, comme 8 Français sur 10, à cette réforme brutale et violente et surtout inutile, puisque cette réforme de retraite, c'est une mesure injuste qui pénaliserait celles et ceux qui ont travaillé tôt. C'est une réforme que rien n'impose et que les pistes de financement que le gouvernement s'obstine à écarter, et c'est des avancées insuffisantes qui ne corrigent pas les injustices du système de retraite. Donc ça, nous, on le dit dans la rue, mais pour autant, nos députés, nos élus, et en l'occurrence la gauche, sont utiles, puisque nous avons des élus au Parlement, et nous déposons un certain nombre d'amendements qui sont travaillés en commission des affaires sociales, puis bientôt dans l'hémicycle.
D'ailleurs, ça fait un sujet, ces 7000 amendements qui ont été déposés.
Alors oui.
Alors essentiellement par LFI. Hein,
bien sûr.
On a parlé d'obstruction quand même.
On parle d'obstruction, c'est vrai. Enfin, ça concerne la France insoumise. Nous, on a déposé bien moins d'amendements, mais tout de même, un certain nombre, c'est 1536 amendements socialistes, si je dis pas de bêtises, pour forcer le gouvernement à s'expliquer, à dire... Voilà, comment, d'accord, vous dites cette réforme des retraites, on est obligé de la faire parce que sans ça, on va avoir un système déficitaire. Bah, expliquez-nous, soyez pédagogue, arrêtez de répéter vos éléments de langage dans les médias, et surtout ce mépris, en fait, qu'on entend des uns des autres, comme quoi la mobilisation serait faible dans la rue, que ça sert à rien de se mobiliser, on ira jusqu'au bout, qu'on n'entend pas ce qu'ont à nous dire les Françaises et les Français, même pas forcément sur la rue, mais sur tous les sondages qui existent de part et d'autre des instituts. Voilà, il y a cette forme de mépris. Donc nos députés vont déposer tout plein d'amendements, des centaines en l'occurrence, pour ce qui concerne les socialistes, pour demander des explications et faire de la pédagogie en disant, voilà, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est utile, pourquoi il faut la faire maintenant. Et nous disons, via ces amendements également, que non, et on se fonde nos arguments sur des rapports, notamment, je pense, du corps, du Conseil d'orientation des retraites, qui, notamment sur le financement...
Qui disait qu'il n'y avait pas urgence, finalement.
Indique sur, je crois, 3 hypothèses sur 4, que le système des retraites n'est pas déficitaire et qu'il n'y a pas urgence à réformer. Pourtant, nous, on ne dit pas qu'il ne faut pas de réforme des retraites. Mais enfin, c'est pour ça qu'on propose donc des amendements. C'est pour améliorer et rendre cette réforme des retraites plus juste, plus digne pour les travailleuses et les travailleurs. Et on propose tout plein on a des propositions, hein, que ce soit au Parti Socialiste ou les Jeunes Socialistes. Alors on n'est pas toujours d'accord, mais nous, on prône notamment la retraite à 60 ans depuis peu. C'est encore l'héritage de Mitterrand qui revient. Mais
qui avait passé la retraite de 65 à 60 ans.
Bien sûr, voilà.
Révolution à l'époque.
Ouais, l'argent existe, il faut le trouver. On propose le rétablissement de l'ISF, on proposait la taxation des super-profits sur les entreprises qui se sont enrichies, notamment depuis la crise Covid, on fait des profits bien plus importants. Je ne parle même pas des GAFAM qui faisaient des profits exorbitants, que ce soit bien avant la crise Covid, mais juste pendant la crise Covid, il y a eu des augmentations. Vous parlez de l'inflation, des prix qui véritablement sont injustifiés pour certains secteurs, et on sait pertinemment que c'est de l'enrichissement de la part des actionnaires, de ces patrons qui, sur le dos des travailleuses et des travailleurs, et qui d'ailleurs ne travaillent pas eux, hein, en ce qui les concerne, mais qui s'en mettent plein les poches. Et en fait, nous, à côté, le gouvernement va dire, oh là là, il faut faire des économies, on va précariser les plus précaires, et on va les faire bosser 2 ans de plus pour des gens qui Parfois, on commençait à travailler à 15-16 ans, hein, je veux dire, pour les plus anciens.
Et dans des secteurs parfois très difficiles.
Dans des secteurs très difficiles.
L'agroalimentaire.
Moi, j'y travaille l'été pour subvenir à mes besoins. Je croise des collègues qui s'approchent dangereusement de la soixantaine et donc de la retraite. Ils sont esquintés, ils n'ont plus de genoux, ils n'ont plus de dos, ils n'ont plus d'épaules. Ils continuent d'avoir des ports de charges lourdes, ils travaillent de nuit. Enfin bref, moi, je trouve ça véritablement préoccupant et scandaleux. C'est à la fois brutal. Ça vient d'un coup, c'est violent parce qu'il faut faire travailler 2 ans de plus les gens, et c'est surtout injustifié parce qu'on nous promet 17 milliards d'économies, nous disait Bruno Le Maire le mois dernier. Les 17 milliards, on les trouve sur les super profits, sur voilà, je veux dire, il n'y a pas urgence à réformer, et s'il fallait réformer les retraites, il faut proposer une alternative beaucoup plus mieux, disons, en termes de... Voilà, on peut aspirer à avoir des jours heureux, à penser que ce soit pas forcément politiquement, mais même philosophiquement, le train de vie, d'avoir une vie meilleure, de moins travailler, et c'est tout l'enjeu des députés socialistes qui font leur travail à l'Assemblée nationale.
Il y a d'ailleurs ce sondage qui est sorti la semaine dernière, ou la semaine d'avant d'ailleurs, autour d'une question simple aux Français. Est-ce que vous êtes pour partir à 64 ans, ou pour partir plus tôt à l'âge... même avant l'âge de la retraite, pour pouvoir vivre pour vous, pour pouvoir profiter de la vie. Et surtout, est-ce que vous êtes en droit de vous dire, bien moi je pars plus tôt, mais je serai moins payé? Et là, à 62%, je crois, les Français ont répondu oui. On préfère être moins payé, mais profiter de notre retraite.
Et ben, c'est un symptôme de la crise Covid qu'on a vécue en 2020, c'est-à-dire que même des jeunes familles, des jeunes cadres, des jeunes travailleuses, des jeunes travailleurs, se disent moi je suis prêt à renier, voilà, à grignoter sur mon confort, sur mon train de vie, pour avoir plus de temps pour moi, de temps pour mes enfants, de temps pour le bien-être, disons. Et effectivement, il va falloir peut-être avoir une réflexion plus globale sur le rapport au travail et les gens, peut-être penser la réduction du temps de travail sans perte de salaire, faire des propositions assez innovantes là-dessus.
C'était un nouveau projet de société, finalement.
Bien sûr, et c'est tout l'enjeu des socialistes et de la NUPES, c'est de créer ce fameux programme qui va aller sur le fond sur beaucoup de choses et qui va développer des réflexions de façon à ce qu'on propose un véritable projet de société. Mais sur le temps de travail, il va falloir réfléchir à mieux peut-être le répartir, puisque on sait que la croissance démographique est forte, qu'il va falloir partager le travail pour éviter que les gens se retrouvent au chômage, pour reparler encore de la retraite, mais... allonger l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans pour notamment des travailleuses et des travailleurs qui sont dans des métiers pénibles, c'est pour beaucoup les mettre au chômage à 55, 57, 58 ans. C'est-à-dire que là-dessus, on ne fait pas encore plus d'économies, mais je veux dire, les gens qui sont esquintés par la force de travail, de toute façon, ils ne pourront pas travailler jusqu'à 64 ans. Donc, cette réforme est inutile. Donc, il faudra repenser le travail. Et il faudra effectivement penser à rédiger, penser ce fameux projet de société de façon à peut-être ce qu'on travaille moins, qu'on ait un confort de vie plus acceptable, plus digne, de façon à mieux vivre, parce que c'est un slogan d'ailleurs des jeunes socialistes, nous on veut vivre mieux et c'est ce qu'on propose. Donc on va travailler en ce sens.
Les jeunes socialistes et puis plus largement les jeunes, on les a entendus sur l'antenne de Bretagne 5, la jeune génération, lors du précédent mouvement, des précédentes manifestations le 31 janvier, ils sont descendus dans la rue. Un peu plus nombreux, ils étaient là le 19 janvier, mais là on les a beaucoup vus, les jeunes, qu'on disait pas forcément préoccupés par les questions de retraite et autres. Eh bien, il n'en est rien, ils sont là parfois à côté de leurs grands-parents. C'est assez touchant de voir les différentes générations. Est-ce que la jeune génération à laquelle vous appartenez, Alexis Bouchard, a vraiment envie de... Alors, renverser la table est peut-être un bien grand terme, mais là aussi... d'un autre projet de société.
Oui, on a envie de renverser la table. Et moi, pour avoir été dans les mobilisations syndicales ces dernières semaines, et notamment le 31 janvier, où à Rennes, j'ai jamais vu autant de monde à Rennes. C'était incroyable. Le parcours a changé. Et, vous savez, les cortèges politiques sont en queue de cortège. On n'était même pas partis qu'on voyait la tête de cortège arriver. Enfin, je veux dire, la boucle était bouclée. C'était assez phénoménal. Mais effectivement, les jeunes s'engagent et les jeunes se sentent de toute façon préoccupés par leur avenir et surtout cette vie meilleure. En fait, je parle des jeunes, mais même les très jeunes pensent effectivement avoir un confort de vie.
On a vu les lycées aussi, je ne les ai pas cités.
Bien sûr,
on n'a
pas envie de travailler toujours dans la même boîte pendant 40 ans. Il y a ces sujets là aussi. Mais ils se sont mobilisés pour dire qu'effectivement, si on commence à lâcher du lait sur nos droits sociaux maintenant, est-ce qu'on va espérer avoir une retraite, nous, à 60, 64, voire plus ? La réponse, c'est non. Et il faut se défendre nos droits et dès le plus jeune âge. Et pour la plupart, nous sommes étudiants, nous sommes jeunes travailleurs, nous sommes des fois déjà dans la vie active, mais il y a aussi, vous l'avez dit, des jeunes lycéens.
Il y a une précarité aussi.
J'allais en venir. Pour la plupart d'entre nous, on travaille l'été ou à côté de nos études pour subvenir à nos besoins. Et on voit nos collègues qui sont usés par la force de travail. On voit nos parents qui, parfois, se plaignent d'être fatigués parce qu'ils travaillent beaucoup. Ils font beaucoup d'heures, ils travaillent tôt le matin. Ils sont assujettis à tout un panel de pénibilité à leur travail. Et nous, c'est aussi pour eux qu'on les défend et qu'on va dans la rue se faire entendre. Donc oui, on se sent préoccupé. On ne veut pas lâcher du lait sur nos droits sociaux. Et si on commence maintenant à grignoter le gouvernement sur nos droits, à quoi bon espérer une vie meilleure et un véritable projet de société qui va nous permettre d'avoir un confort de vie, une dignité et un avenir désirable finalement. Donc non, on se sent préoccupé. Le nombre de jeunes qui étaient là à la fois le 19 janvier mais le 31 janvier le démontre bien. J'espère bien que demain, on sera tout aussi nombreux et ça, j'en ai quasiment la certitude, si
on,
je peux
on
permettre.
Annonce, on annonce des chiffres importants.
Pour en parler avec des camarades, des amis. Enfin, moi, je connais des amis qui n'ont jamais manifesté de leur vie pour dire vraiment combien cette réforme préoccupe les uns et les autres. Mais voilà.
Il y avait dans la rue, Alexis Bouchard, dans les différents cortèges, un peu partout en France, des gens, vous le disiez, qui ne descendaient jamais dans la rue, jeunes ou moins jeunes du reste, des retraités parfois, qui sont venus soutenir leurs petits-enfants d'ailleurs, ou les futures générations. Et puis, on a vu des gens, beaucoup de gens du privé. Finalement, c'est pas la fonction publique qui a été la plus représentée dans la rue.
Alors moi, je ne saurais pas les jauges et tout. Moi, vous savez, je suis derrière les cortèges.
Il ne s'agit pas de faire un comparatif entre l'un et l'autre.
Effectivement, il y a la mobilisation qui est forte de toutes parts. Mais parce que les gens dans le privé ont déjà... leurs droits sont grignotés peut-être plus facilement, disons.
Il y a un contexte aussi, peut-être, qui joue ce contexte d'inflation, de difficulté.
Bien sûr, ouais.
On a vu des artisans, par exemple, dans la rue, qui ne descendent que très rarement
dans
les manifestations.
Oui, même des ouvriers dans le secteur privé qui ne voient pas leur augmentation de salaire suivre en fonction de l'inflation ou même de leur ancienneté au temps de travail. Je veux dire, des fois, on avance très peu facilement, très peu vite concernant l'évolution au sein de l'entreprise ou l'évolution que ce soit dans la prise de responsabilité mais aussi les augmentations de salaire. Donc ça, c'est forcément un déclencheur, dire on va travailler plus longtemps sans aucun fondement, sans aucune justification véritablement viable pour que ces gens effectivement descendent dans la rue pour dire leur opposition à la réforme des retraites. Et moi je salue leur courage et je les appelle à demain manifester en nombre comme les dernières fois pour dire notre opposition, parce que si on est, nous en l'occurrence les élus socialistes, les élus de gauche mobilisés au Parlement, sans l'écho que peut donner la rue et la colère de la rue, on ne pourra rien faire. Et donc, il faut continuer à se mobiliser massivement, même si c'est difficile, même s'il faut faire une grève, même s'il faut faire des pertes d'un salaire. Bien sûr. Les syndicats en sont totalement conscients et c'est tout le travail qu'ils essayent de faire, en tout cas ce travail de pédagogie auprès des travailleuses et des travailleurs. Mais il y a aussi cette mobilisation du 11 février qui arrive, qui est un samedi, qui va permettre aux uns et aux autres qui n'ont pas encore pu dire leur opposition à la réforme des retraites, de venir cette fois-ci de façon à ce qu'il y ait encore plus de monde. Et là, on espère que le gouvernement va enfin nous entendre et ça va être tout l'enjeu de cette mobilisation du 11 février. Donc soyons mobilisés le 7 demain et le 11 février.
Le message est passé. Alexis Bouchard, est-ce qu'on peut imaginer demain on va prendre un peu d'avance sur le calendrier, sur la saison, mais d'un printemps, permettez-moi le terme, un printemps socialiste ou un printemps de la gauche plus largement?
Oui, c'est marrant que vous dites ça parce que le courant auquel j'appartiens, c'est des jeunes socialistes, c'est le courant du printemps socialiste.
Ah, voilà, c'était pas téléphoné,
et
comme on dit.
Tout à l'heure, je parlais du congrès de Marseille, le printemps marseillais, la stratégie gagnante de Benoît Pagnan. Si, c'est en fait dans la symbolique, ça veut tout dire, c'est-à-dire que on a vécu des jours un petit peu sombres, des jours un peu pluvieux. Nous, on a vécu une élection présidentielle qui était très difficile. On a su quand même se relever avec cet accord électoral qui est la nouvelle Union populaire écologique et sociale qu'il faudra faire perpétuer parce qu'aux yeux des Françaises et des Français et des électeurs de gauche, en l'occurrence, nous avons suscité une certaine forme d'espoir dans leurs yeux. Donc, il va falloir perpétuer ce rassemblement, perpétuer ce travail de fond pour véritablement faire ce projet de société dont on parlait pour espérer le printemps, espérer voilà que le soleil se lève sur les vies de chacune et de chacun en gagnant les élections et en changeant véritablement la vie des Françaises et des Français en tenant les promesses que l'on fait déjà, mais d'autres que l'on fera, et véritablement engager ce projet de société qui soit juste socialement, viable climatiquement, écologiquement, si je peux me permettre, et peut-être plus démocratique quelque part.
On parlait tout à l'heure de la boucle lors de la manifestation du 31 janvier. Est-ce que là, une boucle est en train de se boucler ? Est-ce que voilà, on change en quelque sorte de paradigme en ce qui concerne les forces de gauche. Est-ce que la gauche, finalement, qui a été très chahutée, reprend sa place naturelle ?
Bah disons en tout cas qu'elle prend ses responsabilités. Et oui, la boucle est bouclée dans le sens où chacun, que ce soit n'importe lesquels des partis, ça peut être la France Insoumise, bien qu'ils aient fait 22% à la dernière présidentielle, on peut dire... On a fait tant de voix, mais pour autant on n'a pas gagné. Donc on peut être les meilleurs perdants, mais pour autant on n'a pas gagné. Donc chacun est bien conscient que la gauche seule ne gagne pas. Donc à l'heure où l'extrême droite est aux portes du pouvoir, à l'heure où le gouvernement libéral et la droite conservatrice n'ont que à faire des préoccupations des gens, la gauche, dans un esprit de responsabilité, je le répète, continue de s'unir et sait qu'il faut perpétuer ce rassemblement. Parce que sans ça, on ne pourra pas s'y retrouver les uns les autres en ce qui concerne le programme. Et surtout, on ne pourra pas dire aux Françaises et aux Français que voilà, nous sommes responsables et qu'on veut véritablement changer leur vie. Parce que si on y va, c'est ce que les électeurs nous ont dit de gauche pendant la présidentielle, bah, unissez-vous parce qu'en fait, vous voulez vraiment gagner ou pas.
L'ordre dispersé ne fonctionnait pas.
Ne fonctionne pas. Et revenir, disons... devant les électeurs dans les gares, dans les marchés, sur le terrain, en leur disant « bah non, en fait, on n'est pas unis, on n'a pas réussi à être d'accord », que vont dire ces gens qui placent beaucoup d'espoir en nous pour véritablement changer leur vie ? On sera, on sera perçus comme des traîtres et ces gens-là auront tout à fait raison.
On a beaucoup, pardonnez-moi Alexis Bouchard, mais il nous reste une petite minute, on a beaucoup d'électeurs qui se sont détournés de la gauche, qui parfois, de la gauche, sont passés au Rassemblement National. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ?
Eh bien, il va surtout... c'est de par notre responsabilité. Il y a eu des gouvernements de gauche qui ont existé, qui ont déçu. Ça, c'est indéniable. Et nos scores, en tout cas, en l'occurrence au Parti Socialiste, le démontrent fortement. Et ça va être difficile de s'en relever. Pour autant, ce que nous disons, c'est que l'extrême droite, il va falloir détricoter leurs discours, parce qu'ils ont des discours sociaux qui peuvent susciter l'intérêt. Mais pour autant, les faits, ils votent contre la retraite à 60 ans, ils ne se mobilisent pas contre la réforme des retraites. Ils sont absents en commission des affaires sociales pour défendre, pour ne pas défendre justement la retraite à 64 ans. Et ils ont aussi daigné ne pas... voter l'augmentation des salaires quand on l'a proposé. Enfin voilà, c'est une opposition en carton qu'il faut détricoter. Il faut faire un travail pédagogique pour dire aux électeurs et aux électrices, ces gens-là ne vous défendent pas. Et nous avons tout plein de propositions. Regardez, lisez notre programme. On travaille encore dessus pour changer votre vie et améliorer votre quotidien. Voilà. Mais il faut faire ce véritable travail de pédagogie. L'extrême droite est une opposition en carton.
Et c'est là-dessus que l'on va se quitter. Alexis Bouchard, membre du Bureau national des jeunes socialistes, animateur fédéral des jeunes socialistes d'Ille-et-Vilaine, qui était en direct avec nous ce matin au micro de la matinale. Je vous remercie. Je vous souhaite une très belle journée.
Merci à vous. Bonne journée.
Bretagne 5 matin. Stéphane Hamon. Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.